Donc je suis avec Rick Stanler à la 36e édition du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par les présentations. On est là pour vous pour la série Voyageurs. Comment est-ce que le concept a été créé de Voyageurs ?
Tout de suite la question hard. Comment ça s'est passé ? Ben, c'est au départ une idée de Pierre Boisserie, donc. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On a commencé il y a une dizaine d'années maintenant faire la Croix de Cazenac chez Dargaud. Et il a eu cette idée-là d'un voyage dans le temps, mais avec un principe un peu différent. Et donc c'est parti là, de cette idée. Tous les deux, on l'a amélioré, on a travaillé et on avait envie de faire quelque chose, d'aller au bout de ce qui pouvait être fait sur le voyage à travers le temps. Au cinéma, il y a toujours des blocages moraux ou autres qui font que, je sais pas, j'ai l'impression que dans les scénarios, on va pas toujours au bout de ces choses-là. Par exemple, une chose toute bête, mais dans je crois que c'est dans Retour vers le futur, quand il croise sa mère tombe amoureuse de lui et bon, c'est sûr qu'il va rien se passer. Ben nous, il peut se passer des choses comme ça. Et d'ailleurs, dans l'histoire, c'est ça, il est son... Faut peut-être pas tout raconter, mais il est un peu son propre grand-père. Mais c'est pas grave, ça. Nous, on peut se le permettre en BD. Moralement, il y a pas de blocage, il y a pas de. Enfin bref, on s'est pas mis de limite. On a eu envie de s'amuser, d'aller dans tous les sens. En plus, c'est une histoire de copains parce qu'on voulait travailler avec d'autres dessinateurs. Et voilà. En gros, c'est ça.
Le choix des dessinateurs, comment ça s'est fait? Est-ce qu'il y en a certains qui sont venus vers vous une fois qu'ils ont eu connaissance du projet, ou est-ce que c'est vous qui avez décidé à l'avance, voilà, un tel fera futur, un tel fera présent, un tel fera passé?
Oui, ça, dès le départ, on a choisi, on voulait choisir nous-mêmes. On voulait pas que ce soit une espèce d'usine à gaz décidée par l'éditeur. On voulait quand même bien connaître tous les dessinateurs dès le départ, que ce soit des copains, des gens qu'on aime bien. Et donc on a fait notre choix assez rapidement. Ça n'a pas été si facile que ça parce qu'on est tous très très pris. Bon, il se trouve que je dessine relativement vite, alors ça me permettait de prendre de l'avance par rapport aux autres, parce que moi j'ai dessiné les 4 tomes du futur, puisqu'on commence par le futur et on termine par le futur, mais entre temps bon, ça voyage pas mal. Le temps que moi je dessine les 4 bouquins, les autres ont eu, par rapport à tout ce qu'ils avaient à faire par ailleurs, ils ont eu le temps de se préparer et de se mettre au travail.
Qu'est-ce qui vous a influencé pour créer le Grand Paris du futur ?
Pas grand-chose.
Qu'est-ce qui vous a servi de référence ?
Je réfléchis, oui. Mais... Pas grand-chose. Non, j'ai rien de... Je me pose pas ces questions-là. J'adore dessiner les ruines, généralement. J'ai une bonne réputation sur les dessins de ruines. Donc, que ce soit des ruines anciennes de châteaux, des ruines d'une ville, j'aime bien dessiner ça. Donc voilà, j'ai pas eu tellement de références graphiques, si c'est ça. On picore à droite et à gauche forcément, que ce soit dans les films, dans les illustrations, dans les BD qui traînent, on regarde toujours, on s'inspire, mais il n'y a pas de choses précises. Il n'y a pas d'éléments précis, de base sur lequel je me suis appuyé précisément.
Et pour les personnages, est-ce qu'eux ont été inspirés par des personnes réelles que vous connaissez ou non?
Non, je fais jamais ça. Là, je me laisse vraiment aller à mon inspiration du moment par rapport aux caractéristiques psychologiques du personnage. Je le cherche, je tâtonne. Bon, c'est sûr, je réfléchis. Est-ce qu'il va avoir le front dégagé, plutôt haut, plutôt bas, un grand nez, un petit nez, des grandes oreilles, une grande bouche, une petite, menton carré, rond. Enfin, bon, bien sûr, mais il n'y a pas de... Je fais rarement une... Encore que je dis des bêtises, ça m'est arrivé quand même de chercher à partir d'une tête connue, d'un acteur par exemple, mais j'aime pas les ressemblances, donc mais partir d'un principe morphologique. Mais là, en l'occurrence, non. Non, il n'y avait pas, c'est parti comme ça.
Vous avez travaillé la psychologie des personnages en faisant une fiche, bien j'allais dire figée, avec du coup savoir ses orientations et puis aussi un design qui va avec, ou est-ce que vous le gardez en tête sans le poser sur le papier ?
C'est toujours très vivant. Que je travaille seul au scénario ou que je travaille avec Pierre, c'est toujours très vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé, il n'y a rien d'écrit, on ne fait pas de fiches. Ils vivent en nous, donc ils nous accompagnent tout le temps. Et même après que la série soit terminée, les personnages vivent encore à côté de nous. Un peu comme des ombres, des fantômes qui nous suivent. Je fais tellement de bouquins que les fantômes deviennent nombreux, mais je me sens bien accompagné. Pas de fiches, mais on les connaît, hein, J'ai pas de fiche sur mes amis non plus, c'est pareil, je les connais. Je les reconnais dans la rue et je sais d'où ils viennent. C'est pareil pour les personnages.
Quel est le personnage qui vous tient le plus à cœur ?
De voyageurs, c'est Lou, c'est le personnage qui a plusieurs noms, Lou, Marc, Véder. Donc c'est le personnage principal, oui, vraiment, je trouve le personnage assez attachant.
Sur le projet Voyageur, vous disiez que les personnages vivaient en vous. Est-ce que c'est quand même bouclé ? Ou est-ce que vous vous autorisez éventuellement des petites modifications au dernier moment ?
C'est très simple, notre façon de concevoir les choses. Que ce soit Pierre de son côté ou moi, je pense qu'on est pareil. Il y a une colonne vertébrale qui est... C'est un peu comme un corps humain, vous voyez. Il y a une colonne vertébrale qui tient droit. Et autour, il y a la chair qui se met. Donc, à partir d'une colonne vertébrale, on peut être maigre ou gros, mais c'est la même colonne. Je veux dire, ça peut changer, quoi. Ça peut, c'est évolutif toujours. Parce qu'un personnage, j'aime pas les choses figées de toute façon. J'aime pas les scénarios, tout est écrit, dialogue écrit. Même quand je travaille seul, les dialogues se font après. J'aime bien avoir une liberté de manœuvre complète.
Donc j'ai une question maintenant pour Marc Gourde qui vient d'arriver. Est-ce que vous vous sentez donc plus à l'aise sur la période de présent? Oui, est-ce que vous auriez été éventuellement attiré par un autre moment dans le cycle ?
Alors moi, je suis désolé pour vous, puisque vous parlez plus spécifiquement de science-fiction, mais j'aurais pas été à l'aise du tout sur la période future, puisque je suis incapable d'inventer un véhicule ou un objet ou un vêtement du futur. Par contre, j'aurais bien aimé n'importe quelle période, je pense, du passé. Et puis le présent, ça me convient, puisque j'ai fait... pas mal de séries contemporaines. Et puis l'avantage du présent, c'est que je peux faire les repérages photos dans Paris, parce que ça se passe à Paris, voyageurs essentiellement, ou en région parisienne. Et donc je peux faire les repérages photos. Donc j'ai fait énormément de photos avec Pierre, le co-scénariste, Pierre Boisserie. On a fait énormément de photos pour le premier tome à l'Hôtel Dieu, dans le quartier de Notre-Dame, dans le quartier de la place Maubert, et dans Paris.
Comment est-ce que vous avez pu vous approprier les personnages ? Comment est-ce qu'on vous a expliqué justement leurs caractéristiques psychologiques ? C'est facile de reprendre, j'allais dire, une série comme ça en cours et,
En fait, c'est un peu spécial, c'est-à-dire je ne l'ai pas pris en cours parce que j'étais le premier à commencer à dessiner. C'est-à-dire je suis un peu plus lent que mon camarade Eric. Et en fait, j'avais déjà commencé mon premier tome de Voyageurs quand lui a commencé son premier tome du futur. Donc il m'a fait des petits croquis pour les personnages, assez succincts et assez rapides. Et puis je les ai dessinés à ma façon. Mais ils sont assez reconnaissables physiquement. D'abord, on a assez peu de personnages en commun, on en a trois. Fish, Lou et Mac, et ils sont assez typés physiquement, ils sont assez reconnaissables, quelle que soit la façon de les dessiner, donc ça m'a vraiment posé aucun problème.
C'est ce qu'on voulait dès le départ, hein. C'est-à-dire qu'il y ait, quel que soit le dessinateur, qu'on puisse reconnaître le personnage principal, celui qui voyage, celui qu'on voit le plus. Pour ça, cheveux blancs, deux yeux de couleurs différentes et une marque sur le front... qu'il ait après un gros nez qui fasse 1m50 ou 3m, il est censé quand même être grand, bien sûr. Oui, non, mais pour dire que les signes sont reconnaissables et quel que soit le style, même s'ils sont que des dessinateurs qui sont réalistes, on pouvait les reconnaître aisément.
Quel est votre personnage préféré ?
Mon personnage préféré, Lou. Non, Fish. Fish.
Ah, Fish.
Ouais, Fish, bah oui, c'est plus rigolo à dessiner Fish que Lou.
Mais je trouve Lou vraiment attachant. Fish, c'est un sauvage quand même. Hein.
Ah oui, non, mais mon personnage préféré, pas au niveau de la personnalité ou de ce qu'il fait dans l'album, je pense au niveau du dessin. Quoi. Enfin, en tant que dessinateur, mon personnage préféré, le plus sympa à dessiner, c'est Fish.
Ah bah oui,
c'est beaucoup plus rigolo. Je suis en train de dessiner la scène où il arrive sur le plateau du journal de 20h sur TF1 et qui balance le corps du ministre.
Ah, oui.
C'est vachement rigolo à dessiner, ça.
Oui, c'est sympa. Oui.
C'est plus rigolo qu'un gentil loup qui est là.
Oui, mais... Non, mais j'ai du mal à raisonner comme ça parce que, comme je suis en empathie avec les personnages, si j'aime pas le personnage, si c'est un méchant, j'ai pas de plaisir. Si, j'ai du plaisir à le dessiner, mais c'est quand même un méchant, donc je l'aime pas. Donc je peux pas dire je le préfère. Je pense jamais de dessin, en fait, puisqu'en fait, les personnages que je dessine existent vraiment dans ma tête. Donc, s'ils sont pas sympas, j'ai moins de plaisir quand même. Enfin, je le fais. Enfin, c'est pas plaisir, le terme est mauvais. J'ai encore du plaisir, bien sûr, mais je n'ai pas de sympathie, j'ai pas de. Donc je peux pas dire je le préfère. Jamais. Ou non.
C'est pas si tu raisonnes en tant que qu'auteur. Moi je raisonne en tant que, qu'interprète. À la limite, tu sais, les acteurs disent toujours que c'est plus rigolo de jouer un méchant que de jouer un
un gentil. J'ai toujours eu du mal à comprendre ça, en fait. Je fais pas la séparation entre le le réel et le, l'imaginaire.
Ça, c'est un petit peu inquiétant. Faudrait que tu vois quelqu'un.
Pas du tout. Je pense que tu vois les gens ont vécu des millénaires et même des centaines de milliers d'années en, en mélangeant les deux. Enfin, il y a pas de frontière pour moi entre le réel et l'imaginaire. C'est très récent le fait qu'on soit dans le concret, dans le réel. Pour les gens, au Moyen-Âge, même jusqu'au 19e siècle, toutes les légendes étaient ancrées dans la vie quotidienne. Cher ami. Et donc je suis encore comme ça. Je crois aux fantômes, moi, monsieur. Et j'en ai même vu. Ouais, j'étais plus jeune. Ouais. J'avais peut-être un peu bu aussi. Mais j'en ai vu, j'en ai vu. Alors moi, j'ai une maman qui parle avec les morts, alors je suis déjà mal barré. Hein. Et ma grand-mère, j'en parle même pas. Elle, c'était avec ses frères qui étaient morts en 14-18. Bref, je suis d'une famille un peu, un peu spéciale. Ça va bien pour votre radio, hein.
Oui, alors du coup, c'est différent par rapport à présent et futur. Passé, ça va être 4 dessinateurs différents.
Oui.
Donc là, ça va peut-être être un peu plus compliqué pour la charte graphique, ou est-ce que c'est... Ah non, c'est des aventures qui vont être en one-shot à chaque fois, c'est ça?
Oui. Bon, il y a toujours le fil rouge, hein, bien sûr. Mais en fait, au départ, ce qu'il faut comprendre au départ, c'était pas du tout construit comme ça. Ce qu'on avait proposé à Glénat, c'était que il y avait en fait 3 séries de 4 albums. Une série future, une série présent, une série passée. Et tous les 3 mois sortait un album, donc un mois, enfin à un moment sortait le futur, par exemple 3 mois après présent, 3 mois après passé, 3 mois après futur, 3 mois après, comme ça. Et tout correspondait, le futur correspondait au présent, au passé, tout s'entremêlait comme ça. C'était un peu compliqué. Mais c'est pour ça qu'au départ, on avait pris 4 parties passées. Ça se justifiait parce qu'il y avait 3 séries en parallèle. Maintenant, Glénat a pensé que c'était un peu compliqué, que les libraires aussi ont dit que, en fait, si c'était tome par tome, ils arriveraient à mieux vendre le concept. Donc, Glénat a reculé là-dessus, ils ont craint que ça ne fonctionne pas. On a fait comme ça. Donc les 4 du passé, les 4 one-shot, sont peut-être un peu moins justifiés parce que sont des histoires qui servent la grande histoire de voyageurs, mais qui en même temps ont moins d'importance dans le récit lui-même, moins d'importance que le futur et que le présent, où là on doit résoudre vraiment quelque chose d'important pour la fin elle-même, pour le concept final. Dans le passé, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce va-et-vient à travers les époques, mais l'évolution du personnage central est moins flagrante.
Tout le monde a tout le scénario en main, il est complètement fini, il ne peut pas évoluer un peu. Est-ce que tous les dessinateurs savent tout d'un bout à l'autre? Je pense aussi à Guarnido parce qu'il fait toutes les couvertures, donc comment ça se passe pour avoir l'essence même de chaque album en fait.
Je sais pas exactement si ça c'est Pierre qui s'occupe de ça. Je sais pas s'il envoie tout aux autres dessinateurs. Faudrait demander à Marc. Nous on n'a pas tout fini. C'est sûr qu'on sait où on va. On connaît.
Ce que vous disiez avec la colonne vertébrale.
Oui, voilà. On connaît le début, on connaît la fin. Il y a plein de petites choses, de petites subtilités qu'on n'a pas encore, qu'on fait au fur et à mesure, bien sûr. On sait que dans le passé, il y a... Bon, pour le présent, c'est réglé, bien sûr. Mais dans le passé, dans ces one-shots, il y en a un qui se passe au Moyen-Âge. Bon, celui-là est bouclé.
Avec Lucien Rollin.
Lucien Rollin, ouais. Ensuite, je ne sais jamais lequel c'est. Je crois que c'est celui qui se passe dans les années 40. Enfin, parce qu'après, il y a l'occupation. Ensuite, il y a l'époque, le 17e. Et après, l'Antiquité. Bon, on sait à peu près ce qui se passe. Mais tout n'est pas figé. Non, tout n'est pas écrit véritablement. Mais il va falloir qu'on s'y mette rapidement.
Vous avez eu que la partie présent, vous, au niveau du scénario?
Non, avant de signer, j'avais eu le synopsis du cycle futur et le synopsis des 4 albums du cycle présent. Mais il y a eu des tas de changements dans ce synopsis, d'ailleurs, au fur et à mesure de l'écriture du scénario. Donc ça donnait une direction générale, mais pas forcément l'exact contenu de tout le cycle. Je sais pas du tout ce qui se passe dans le cycle passé, ni dans le 13e et dernier album.
Mais il a quand même eu de la chance, parce qu'il a le cycle le plus intéressant au niveau de l'histoire, je trouve. On aurait bien aimé commencer par celui-là. Mais bon, au niveau du temps, c'était compliqué, parce que... Non, t'es pas lent, Marc, mais t'es un peu moins rapide. Non, c'est vrai que si on avait commencé par le présent, comme on doit sortir tous les 3-4 mois, ça aurait été un peu difficile de lancer le présent. Mais c'est je pense, la partie la plus dynamique. Enfin, ça bouge un peu, c'est un thriller, donc on aime bien. Ça va être, au fur et à mesure, on va le sentir, c'est assez sympa.
Vous nous disiez que vous aviez fait des pochettes d'albums hard rock quand vous étiez plus jeune. Quelle musique vous conseillez d'écouter en même temps que Voyageur ?
Ah bah mince alors, j'en sais rien. Je travaille peu en musique, j'écoute peu de musique en fait, même si j'ai commencé en faisant des pochettes de disques. J'écoute plutôt la radio. Alors, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on peut écouter ? Mais comme je suis éclectique, moi j'écoute, je peux écouter un peu de tout, mais je suis pas un fin connaisseur. Moi j'écoute du jazz alors, est-ce que le jazz pourrait aller avec Voyageurs ? C'est pas sûr du tout. Pas sûr du tout. Non, là je mets un joker, hein, parce que j'en sais fichtre rien.
Et pour vous ?
Je sais pas.
Là, voilà, Pierre nous manque parce que lui ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Boisserie a un groupe dans lequel joue un groupe de rock, dans lequel joue Juanro Guarnido, Ciro, enfin bon, bref, des auteurs BD, Fabien Bellman un peu moins.
Il veut rechanter.
Il veut rechanter. Ouais.
Très bon chanteur.
Très bon chanteur, oui. Et très bon scénariste aussi.
Ah, oui.
Et donc voilà, oui, bon, c'est un groupe d'auteurs qui font du rock. Donc eux en musique, oui, ils s'y connaissent nettement mieux que nous. Nous, on est vraiment pas bons.
Vos projets actuels ?
Moi, j'en ai plein. Tu veux commencer, Marc ? Ça va durer longtemps. Moi, j'ai un bouquin qui sort chez 12 Bis, nouvelle maison d'édition. L'ancien directeur de Glénat qui a créé une petite structure. C'est sympa, c'est vive. Et j'aime bien ça, enfin, moi, j'aime bien les rapports d'amitié, donc naturellement je leur ai proposé quelque chose. Donc j'ai une histoire qui sort début mars ou fin février, je sais pas. Et puis après j'ai un autre livre chez Dargo, et puis après il y a un livre chez Glénat, et puis après il y a un livre chez encore 12 bis, et puis enfin bref, l'année 2009, je dois avoir 5-6 livres qui sortent, à peu près.
Sur quelle thématique ?
Le livre chez 12 bis, il y a un tome 1 et un tome 2 qui vont sortir en 2009, ça s'appelle Ils étaient 10. C'est pendant la retraite de Russie, 10 personnages qui se rassemblent un peu comme ça, comme ils peuvent, et qui sont entraînés dans une fuite un peu solitaire à travers la Russie. Oui, ça va finir très solitaire quand même cette histoire-là. C'est une histoire assez forte, que je veux... Pour ça, au début, la question, quand tu... Non, c'est pas une question forte, non, mais pas forte. Pour moi, j'y suis vraiment attaché. Si tu m'avais dit quel est ton personnage préféré, en ce moment, c'est pas dans Voyageurs, je retrouvais ces personnages qui faisaient Élise. C'est un médecin qui s'appelle Jean-Baptiste Gracien, et vraiment, je suis très attaché. Et ça, on le sait pas, mais ça vient comme ça. Enfin, c'est assez bizarre, c'est assez étrange, hein, comme les personnages deviennent vraiment réels et proche. Donc oui, voilà, donc il y a une histoire qui se passe en 1812, une autre qui se passe en 1960 aux États-Unis, liste 66. Bon, là j'inverse les codes habituels des romans d'espionnage, c'est-à-dire que le héros est du KGB, les méchants sont de la CIA, je trouvais ça amusant, plein de choses comme ça.
Et de votre côté ?
De mon côté, je suis en train de finir le troisième tome de Voyageurs présents, après j'attaque le quatrième, que je termine cet été, même si certains sont sceptiques, mais je le terminerai cet été. Puisqu'il est prévu en novembre. Et puis, qu'est-ce que j'écris ? J'ai un album, deux albums dont j'ai écrit les scénarios qui sortent chez Vent d'Ouest et chez Glénat en mars, normalement, mais le dessinateur a du retard, lui aussi. Ça s'appelle L'été 63. C'est dessiné par Voro, un dessinateur québécois qui a énormément de talent. Il travaille un peu dans le style de Gibra. Donc, c'est une histoire intimiste qui se passe dans un petit village d'Auvergne au début des années 60 avec des adolescents. Ça sera une histoire en deux albums. Et puis en juin, j'ai le premier tome des Pirates de Barataria qui sort chez Glénat. C'est une nouvelle série dont je fais le scénario pour le dessinateur Franck Bonnet, qui fait des planches magnifiques avec des navires magnifiques. Puis après, normalement, je fais deux albums pour les éditions du Lombard, un spin-off d'une série, d'une des séries best-seller du Lombard. Mais c'est pas encore signé, donc j'en parle pas. Sinon, j'ai plein de projets, mais bon. Je vais reprendre aussi ma série Franklin Colm avec un nouveau dessinateur.
Ah bah, il bosse aussi, hein. Ça travaille dans la BD, il faut pas croire.
Vous avez un site internet ou un blog sur lequel on peut retrouver votre actualité?
Oui, moi j'ai des amis qui ont fait ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Les amis d'Eric Stallner, il y a un truc où ils ont fait tout un machin. Oui, non mais... Oui, arrête, même sur Facebook, hein, c'est terrible. Non, mais il y a un blog qui est bien suivi, qui fonctionne très bien sur toute l'actualité, tout ce qui se passe autour de moi. J'aime pas trop ça, mais... Enfin, j'aime pas trop ça, non, c'est sympa, mais... J'aime bien être dans mon coin. Je suis assez ours. Je veux pas qu'on s'intéresse à moi. Lisez mes livres, mais moi, ma vie, c'est... Ma vie, mon œuvre, c'est pas trop mon tempérament. Quoi. Mais il y a malgré tout quelque chose de très bien fait sur Internet. Il y a un site.
Alors moi, j'ai un site Internet depuis quelques années. Mais le problème, c'est que c'est un copain qui s'en occupe et qui est censé le mettre à jour. Et il le met pas tellement à jour. Donc il a même pas encore annoncé la sortie du voyageur. Donc, on peut quand même le consulter pour voir. En gros, ce que j'ai fait, c'est opalbd.com/bourgne, B-O-U-R-G-N. Voilà, sur le site d'OpalBD.
Quelque chose que vous aimeriez rajouter?
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Que j'ai encore un truc en préparation, une histoire d'un peu d'anticipation encore, que j'avais oublié, chez Glénat, la zone, qui s'appelle la zone. Quand tout est détruit sur le monde, qu'est-ce que font le peu d'hommes qui restent? Est-ce qu'ils vont repartir vers les mêmes travers? Est-ce qu'ils vont avoir appris quelque chose? Ça m'intéressait de savoir si l'homme est capable d'apprendre vraiment et de transformer ce qu'ils sont en quelque chose de mieux.
C'est du post-nucléaire ou une catastrophe naturelle?
C'est un mélange de plein de choses. C'est un monde après. C'est un monde après. Effectivement, tout a été... détruit, c'est-à-dire, bon, c'est plus... pour moi, c'est pas nucléaire, enfin, c'est pas une destruction comme ça, c'est un peu comme dans 28 jours plus tard, enfin, sauf qu'il n'y a pas des monstres, mais bon, c'est plutôt une fin de monde qui serait plus classique, quoi. Un virus qui attaque et qui bousille tout, ça peut arriver, enfin, faut pas se voiler la face, hein. c'est une chose possible. Puis à partir de là, ça déclenche forcément tout un tas d'événements dramatiques, parce que il suffit que dans une centrale, il n'y ait plus personne pour s'en occuper, parce que les gens sont malades ou morts, et ben, en 3 semaines, il y a tout qui pète, quoi, tout se répand. Hein. Donc forcément, ça enchaîne. C'est un enchaînement de causes et d'effets qui font que ça peut aller super vite. Donc voilà, c'est ça qui m'intéressait. S'il reste quelques milliers d'êtres humains, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce qui reste? Donc je propose plein de choses possibles, plein de types de sociétés possibles. Donc je m'attaque aussi bien à la religion qu'à la science, qu'au concept politique et idéologique de base, quoi. Il peut y avoir des systèmes monarchiques ou autoritaires ou anarchiques ou très très scientifiques, très religieux. Enfin, il y a plein de systèmes politiques qui peuvent être, enfin, systèmes de société qui peuvent être étudiés. Donc il y a un côté à la fois anticipation et un peu ethnologue, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais enfin bon, j'étudie un peu l'être humain et comment il se comporte à travers ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais bon.
Quelque chose à ajouter?
Non. Non, pas spécialement, non.
Merci à vous.
Merci beaucoup à vous.
Oui, c'est ça, merci beaucoup de nous avoir invités.